On continue notre étude sur le guide de prière. On regarde encore d'autres points qu'on doit... c'est pas des suggestions, c'est plus qu'une suggestion, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande. C'est des points que Dieu nous demande de prier parce que Dieu a l'intention d'exaucer ce genre de prière-là. On est encore en train de prier dans la section pour nos besoins personnels. Puis ce soir, le sujet qu'on va voir, c'est de prier pour notre propre santé. Là, on parle pas nécessairement prier pour les autres, mais c'est sûr, ça l'inclut les autres parce que nos prières sont basées sur les mêmes promesses. Lorsqu'on pense de prier pour notre santé, c'est aussi bon de prier pour les autres aussi. Savez-vous que les rachetés ont accès au trône de grâce pour être guéris? Dans la parole, dans Hébreux 4:16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance » du trône de la grâce. Ça, ce trône-là, il est où, ce trône-là? Il nous dit de s'approcher de ce trône-là. C'est où, le trône de la grâce? Mais le trône de la grâce, c'est le trône de Dieu. Approchez-vous, ça veut dire, t'as pas le choix, faut que tu parles à Dieu si tu veux t'approcher du trône de Dieu. Il dit, approchez-vous donc avec assurance. Pourquoi qu'on doit avoir de l'assurance? Pourquoi qu'il nous encourage à avoir de l'assurance? Parce qu'il faut croire qu'on a accès. L'ouverture est faite. Le trône de la grâce et le trône de Dieu, c'est dans le lieu très saint. Quand Jésus a expiré, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut jusqu'en bas. C'est Dieu qui l'a déchiré pour nous montrer que l'accès est ouvert à cause de l'œuvre de Jésus. Dans ce passage-là, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » Quand tu t'approches du trône de la grâce, puis tu commences à demander des choses au Seigneur, parce que tu sais que tu as le droit de le demander, il t'a dit, avance-toi avec assurance devant ce trône-là, tu vas trouver miséricorde. C'est quoi de la miséricorde? La miséricorde, c'est un genre de pitié, de compassion que Dieu a envers nous. Quand tu t'approches de lui, ça le touche. On trouve de la pitié, de la compassion. Il veut s'occuper de nous autres. Si on ne demande jamais rien, on n'aura rien. Si on s'approche du trône pour obtenir, Dieu il aime ça, nous voit prier. Puis il nous invite à aller à lui pour aller recevoir son repos. Comme ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais là, il dit, tu vas t'approcher du trône, tu vas obtenir miséricorde, tu vas trouver grâce. Dieu va te donner des cadeaux, des grâces et des cadeaux. Dieu va te donner des cadeaux, puis tu vas être secouru dans tes besoins. Quand tu as une maladie, tu as des souffrances, tu files pas dans ton corps ou dans ton âme. Tu as besoin d'une guérison intérieure ou une guérison physique. T'as besoin. Oui, on peut aller voir les médecins, mais avant d'aller voir le médecin, allons voir le trône de la grâce. Demandons à Dieu que Dieu, il est riche en miséricorde, il est riche en bonté, il a pitié de nous autres, il nous aime, puis il veut nous exaucer. Puis quand on s'approche de lui, dans l'invitation, elle est là, approchez-vous. Il faut s'approcher de lui, puis il dit tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a comme souffrance. Avez-vous des souffrances? Avez-vous des choses que vous avez, des maux, de la misère, des maladies, tout ça, là, tout ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous passez à travers, allez au Seigneur, puis présentez-les au Seigneur. La question du titre, c'était « Savez-vous que les rachetés ont accès au trône de la grâce pour être guéris, être secourus dans nos besoins, mais une guérison, c'est un besoin. » Puis tous ceux qui allaient à Jésus dans le temps, ils étaient tous guéris. Il guérissait toute maladie, toute infirmité, puis encore, et Dieu, il n'a pas changé, il a le même éternellement, il a le même cœur à vouloir exaucer, puis il attend qu'on y demande. L'œuvre de Jésus à la croix n'était pas seulement pour nous pardonner nos péchés. Oui, on met l'accent là-dessus parce que ça, on croit que c'est notre problème numéro un, c'est d'être, vu qu'on est à mort spirituellement, on voulait être pardonné, on voulait être naître de nouveau, on voulait être ressuscité, on voulait avoir notre place dans le ciel. Puis l'œuvre de Jésus sert à cela, à nous pardonner nos péchés, puis à nous donner l'ouverture pour entrer dans la vie éternelle. Mais l'œuvre de Jésus n'est pas juste pour sauver les gens de leurs péchés. Dans Isaïe 53, ça nous parle, c'est une prophétie dans l'Ancien Testament, au verset 3 à 5, ça nous parle de Jésus. Ça, on va voir un verset, je n'ai peut-être déjà parlé, mais ça nous fait du bien de le rappeler. Écoutez bien cette prophétie-là. Là, ça, c'était fait des centaines d'années avant que Jésus vienne, puis ça parlait de Jésus, du Messie. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce passage-là, c'est une prophétie, ça. Ça parlait de Jésus, puis ça parlait de sa mission. Puis vous pouvez lire avant, puis après, ça en dit plus encore sur Jésus, mais le bout que je voulais qu'on regarde ce soir, c'est là-dessus. Au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Il n'y a pas juste nos péchés qu'il a portés sur la croix, c'est nos souffrances aussi qu'il a portées sur la croix. Ça dit aussi, « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Fait que tout, c'est comme si Jésus, en venant sur la terre, en subissant les souffrances qui est lui, pas en théorie, je dirais pas une théorie, mais en principe, Jésus ne devait aucunement souffrir dans aucune occasion. Pourquoi? Parce que Jésus avait commis aucun péché. Jésus n'avait commis aucun péché, donc, ça n'aura jamais dû arriver que Jésus ait la moindre petite souffrance. Mais le fait que souffert, chaque souffrance, ça nous dit juste un peu au début de ce que je vous ai dit, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Là, tu le regardais, puis Jésus, ce n'était qu'une vie de souffrance qu'il vivait. Mais c'était la souffrance des autres qui portait. C'était pas à cause de ses péchés. C'était à cause des péchés des autres. Quand le monde regardait Jésus, il avait pas de l'air d'un gars attirant, un gars bien bâti, puis qu'il reflétait la santé, puis la joie de vivre, puis le plaisir, puis le party. Pas du tout. Jésus était un genre que tu le regardes, puis tu regardes d'ailleurs, parce que t'es même pas intéressé de le regarder. Ça dit au verset 3 que j'ai dû au début, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Tu regardes Jésus, tu veux même pas passer plus que deux secondes sur son visage, tellement que c'est un gars bien ordinaire, bien banal, quelqu'un que tu n'es même pas intéressé de regarder. Mais en plus d'être habitué à la souffrance, puis c'est un homme de douleur, c'est un gars qui a souffert toute sa vie, le monde le dédaignait. Ça dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ils n'ont pas porté l'attention au Seigneur à cause de son apparence, à cause de ce qu'il dégageait. Il avait l'air d'un gars qui était frappé par Dieu. Tu sais, quelqu'un qui vit de la misère, puis qui est... Mais on en voit, là, tu vois un itinérant sur le bord du chemin qui est mal habillé, qui est tout sale, puis qu'il n'a pas une belle apparence, il n'est pas entretenu, il y a de l'air pouilleux, tu sais, je caricaturise, là. mais un gars que tu regardes même, tu veux même pas regarder, puis tu veux même pas y parler. Mais Jésus avait de l'air comme ça aux yeux des gens. Sauf que son discours changeait, brossait l'opinion, puis changeait le cours de la vie des gens. Quand il priait pour les personnes, waouh, il se passait des affaires, les vies étaient transformées parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Mais ce que je veux en venir, c'est que tout l'état de souffrance qu'il a vécu, chaque souffrance, c'était les souffrances de l'humanité en entière qui étaient sur lui. Pas juste nos péchés, nos souffrances, nos maladies. Ça dit au verset 4, en continuant, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Écoutez bien ça, c'est nos souffrances qu'il a portées. Quand il souffrait, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance, mais il portait nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais en réalité, au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Fait qu'il subissait des blessures et des souffrances pour nos péchés et aussi nos maladies, nos souffrances, nos maux. Il les a portés. Il fallait que quelqu'un les expie. C'est lui qui les a pris sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si on ne peut avoir une paix un jour en acceptant Jésus, c'est à cause que lui a subi le châtiment qui pouvait nous accorder la paix par la suite. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage-là est bien prophétique pour dire que si tu as une guérison aujourd'hui, c'est parce que Jésus a subi la meurtrissure pour que tu puisses t'en sortir. Cette révélation-là, que ce que je vous explique là, était aussi crue et pratiquée par les premiers disciples. C'était dans leur théologie, dans leur enseignement, que les souffrances du Christ étaient dans le but de guérir les gens. On voit ça, que Jésus, son ministère, mettait l'emphase sur la guérison. Il prêchait, oui, il expliquait. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus, il fallait qu'il explique la vérité, les enseignements, les révélations. Mais la bénédiction là sortait de lui à cause de ses souffrances. Déjà, il est un canal pour guérir le monde. Jésus, il commence à faire le tour de ses disciples. Il s'en va faire un tour chez Pierre. Il arrive là, c'est une visite de courtoisie. La belle-mère de Pierre qui reste chez Pierre, lui, il arrive chez Pierre en visite, puis la belle-mère, elle a la fièvre, elle est couchée dans un lit. Dans Matthieu 8, les versets 14 et 15. Ça dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Mais il toucha sa main, puis la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. Voyez-vous, c'était pas juste une doctrine, c'était pas juste une théorie qui était dans Isaïe qui disait qu'il porterait nos maladies puis il prendrait sur lui. Il l'a pris. Il a pris la main de la belle-mère puis la maladie qui était après elle, elle l'a quittée tout de suite. Mais sûrement que Jésus en ressentait des effets. Il souffrait puis c'est à cause de ses souffrances qui opérait la guérison. Jésus a pris sur lui les souffrances, pas juste les péchés, comme je disais, parce qu'on met toujours l'accent sur les péchés, mais il prend aussi les maladies. Il a payé pour les maladies. On a le droit de croire qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'on a le droit de demander à Dieu d'être guéri à cause que Jésus a payé pour les maladies aussi. Dans le même texte, le Matthieu 8, 14 et 15, on continue au verset 16 et 17, Jésus a guéri aussi d'autres malades dans la même journée. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Puis regardez bien la conclusion, le verset 17. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. C'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. Il a pris nos infirmités, puis il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous, c'était dans la doctrine des disciples. Jésus le vivait, puis guérissait les gens, que ce soit des disciples, que ce soit des gens qui connaissent pas encore le Seigneur, mais Jésus était là pour présenter le Seigneur aux gens. Puis, il les a tous guéris, toute la gang. Puis c'était dans le but d'accomplir la prophétie d'Isaïe que ce que je vous ai lu tantôt dans Isaïe 53, les versets 3 à 5, que Jésus, c'était sa mission de prendre sur lui les péchés, puis nos souffrances, puis tout ça. C'est afin que ça s'accomplisse que Jésus guérissait tout le monde. Pourquoi qu'ils ont écrit ce petit bout-là dans le Nouveau Testament, dans Matthieu? Parce qu'il croyait à la prophétie d'Isaïe. Puis il croyait que Jésus, c'était sa mission, puis qu'il prendrait sur lui pas juste les péchés, prenait sur lui aussi les maladies. Puis c'est pour ça que les disciples, quand ils ont vu que Jésus guérissait tout le monde, ils ont dit, c'est afin que ça s'accomplisse, cette prophétie-là. C'était là-dessus que les disciples s'appuyaient pour demander à Dieu des guérisons pour les malades. C'était le verset qu'il s'appuyait pour dire, Seigneur, on voudrait guérir nous aussi. Mais il s'appuyait sur ça. Jésus a payé, ça le dit dans Isaïe. Mais il servait de ce passage-là, puis nous l'ont écrit comme preuve, comme c'était ce verset-là, qui est important pour dans leur foi, de s'appuyer sur Isaïe pour croire que Dieu peut aussi te guérir physiquement et dans ton âme. Jacques, le frère du Seigneur, celui qui écrit l'épître de Jacques, il croyait dans l'efficacité de la prière. Il connaissait le cœur de Dieu à vouloir nous guérir. Tous les croyants ont cette possibilité de recevoir une touche du Seigneur dans la souffrance. Tous les croyants ont accès, comme j'ai dit tantôt, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Vous avez des besoins, vous êtes malade, vous souffrez, allez à Dieu, approchez-vous avec assurance. Tous les croyants ont accès à cause que Jésus y est venu pour accomplir la prophétie d'Isaïe. Êtes-vous dans la souffrance? Y en a-tu qui souffrent ici? Vous avez le droit, soyez pas gênés, vous avez mal à quelque part, dites-les. Êtes-vous dans la souffrance? Qu'est-ce que Jacques va nous dire dans Jacques 5, 13 à 16? Jacques nous dit de prier. Souffre, prie. Ça dit dans Jacques 5, 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, ils vont prier pour lui. C'est encore, il suggère encore la prière comme étant le moyen de se sortir de nos maladies. Qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, puis la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, puis s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et pardonnés. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voyez-vous, dans Jacques, un homme de foi, un homme pratique, parce que Jacques, lui, c'est un gars pratique. Il dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu veux montrer que tu as la foi, prouve-les, vis ta foi. C'est pas juste de la théorie, de la foi, c'est une ferme assurance, mais une démonstration de ce que tu crois, de ce que tu espères. Tu le vis, ça se vit la foi, c'est pas juste une croyance, voyez-vous. Puis il dit, quand tu souffres, tu es malade, tu as besoin d'une guérison, prie, va voir les anciens, ils vont prier pour toi. Puis il dit, la prière de la foi va sauver le malade, puis s'il a commis un péché, il va lui être pardonné. Pourquoi qu'il nous dit, s'il a commis un péché, il va lui être pardonné? Même si tu es chrétien, tu peux recevoir une maladie qui est une conséquence du péché. Est-ce que toutes les péchés, les maladies qu'on a sont dues à des péchés? Non. Mais est-ce que ça peut arriver? Oui. C'est pour ça que ça lui dit dans ce passage-là, confessez donc vos péchés les uns les autres. Là, il dit les uns les autres, c'est pas dans le sens de le dire à tout le monde, c'est de le dire, va voir les anciens, confesse-les aux autres. Puis l'autre aussi, c'est en fait, là, ça peut arriver que c'est un ancien qui s'est pogné quelque chose, puis tu le sais quand que c'est t'as fait un péché, puis que tu sais que Dieu te le dit que ton péché est à cause, ta maladie est à cause de ton péché. Fait que tu le sais. Si tu le sais pas, puis tu n'as pas de signe de ça, tu n'as pas besoin de penser que c'est à cause d'un péché. Mais si tu sais que tu as fait des péchés, puis tu sais que tu es malade à cause d'un péché, va voir un ancien, puis demande des prières. Puis la prière de la foi va sauver le malade, puis s'il a commis des péchés, ils vont être pardonnés. Ils vont être pardonnés parce qu'ils vont confesser le péché. C'est pas de faire l'idée comme un confessionnal, là, c'est pas ça. C'est l'idée d'être capable de s'ouvrir puis de chercher la libération devant Dieu. Dieu, il savait c'était à quoi notre problème. Puis c'est lui qui a fait qu'on aurait un péché. Pas un péché, mais une maladie à cause de notre péché. Fait que si tu as un problème, puis tu sais que c'est à cause d'un péché, Dieu aussi, il sait, mais il attend que tu t'humilies, puis tu ailles voir l'autre, puis tu demandes la prière, puis tu le dises. J'ai fait quelque chose, je le regrette, puis je demande pardon au Seigneur, puis je demande la guérison. Puis Dieu va le faire. Dieu, il dit, la prière de la foi va sauver le malade. La maladie n'est pas toujours due à un péché. Notre corps a été semé corruptible et infirme. C'est ce que ça nous dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 42 et 43. Si je mentionne ça, c'est parce que c'est pour qu'il y ait toujours la théologie, là, pour qu'elle s'aille basée, que ça ait une idée, il faut que tu voyes l'autre côté de la médaille. Bon, mais c'est pas à chaque fois que tu as une maladie que c'est à cause d'un péché. Dans 1 Corinthiens 15, 42 et 43, ça nous dit, il parle de la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, puis il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, mais il ressuscite plein de force. Voyez-vous? C'est normal qu'on ait des problèmes, des dysfonctionnements, notre corps s'use aussi, puis notre corps peut se blesser. Tu marches, tu t'enfermes, tu casses une jambe. Mais c'est des conséquences naturelles, physiques. C'est pas toujours à cause d'un péché. Ton corps, il est semé corruptible, il est semé méprisable, il est semé infirme. Tu peux naître avec des malformations. Mais il va ressusciter plein de force. Mais ça, t'as pogné un corps qui est comme un citron, autrement dit, puis tu pognes toutes les maladies qui passent, il annonce une grippe à la TV, puis t'as pogné. Mais oui, il y en a des personnes comme ça qui sont faibles. Le système immunitaire n'est pas capable de se défendre, puis ils pognent plein d'affaires, ou ils ont des dysfonctionnements. C'est pas toujours des péchés. Ça le dit qu'on est semé infirme. Ou ça peut être mental, les problèmes aussi, ou physique. Les problèmes, c'est pas toujours de notre faute. Ça peut être de notre faute. Si on prend pas soin de notre corps, il peut avoir des problèmes. Mais tu peux en avoir à naissance, tu peux en avoir dans la génétique de ta famille, t'as plein de cancéreux dans ta famille, ou t'as plein de cardiaques, puis c'est un problème de le cœur qui est mal, qui a une faiblesse, puis tout le monde a la même faiblesse. Comme ils font une badge de char, puis ils vont toute la badge de char, vont avoir le même problème. Ça, c'est un autre domaine, mais ça peut être ça aussi, des conséquences des péchés de nos ancêtres. Parce que nous, on en fait des péchés, puis on a des choses, mais des fois, on traîne dans nos familles des affaires de nos ancêtres. Ça, c'est une autre affaire qui peut être une conséquence d'avoir des maladies dans notre corps. Mais il n'y a pas de péché que Dieu n'est pas capable de pardonner, puis il n'y a pas de maladie qu'il n'est pas capable de guérir. Amen. Dieu Il est tout puissant, puis ça dit, quand Jésus était sur la terre, ça dit, il chassa les esprits par sa parole, puis il guérit tous les malades. Il n'y a pas de maladie que Jésus n'est pas capable de guérir. Il y a même du monde qui avait la main sèche, là. C'était un handicapé, là. Quelqu'un qui est vraiment pas capable de fonctionner. Puis tchouk, sa main est devenue saine. Il est capable même de faire allonger un bras s'il veut. Il est capable de n'importe quoi. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Nous, on a des grandes limites, mais Dieu n'a pas de limites. La seule limite que Dieu a, c'est notre foi. Si on n'a pas de foi, on n'aura rien. Jésus n'a pas pu faire de miracle dans sa ville où il a grandi, parce qu'il n'a pas trouvé de foi dans ce monde-là. Il voyait tout Jésus comme étant le fils du charpentier, mais il ne comprenait pas, puis quand il n'a pas imposé main, il a peut-être imposé main à quelques-uns, mais les autres, ils ne voulaient pas recevoir, ils ne croyaient pas. Les seules limites que Dieu a, c'est notre incrédulité, parce que Dieu, il n'y a pas de limite. On n'est pas là pour juger puis critiquer ceux qui ont des doutes ou ceux qui sont. On est comme qu'on est. On est là pour s'encourager puis s'aider puis avancer ensemble, à grandir dans la foi. Si on étudie ces sujets-là, c'est dans le but d'augmenter notre foi. C'est dans le but qu'on mette la barre plus haute puis qu'on vise plus haut, qu'on se dise là, on va croire. On va croire Dieu, puis on va croire sa parole, puis on va le faire. On va prier pour les malades. S'il y a quelqu'un qui est malade, on ne sera pas gêné de prier. Dimanche, il y avait encore la sœur, là. Comment qu'elle s'appelle? Marie-Josée. Bon, on a prié pour elle. Des fois, les gens ont besoin de délivrance, des fois, ils ont besoin de guérison. Faut pas gêner. Si on dit, ouais, mais j'ai prié pour quelqu'un la dernière fois, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Continue, persévère. Ça prend de la persévérance dans la prière. On doit prier jusqu'à temps qu'on ait une réponse. Faut pas baisser les bras en attendant puis d'abandonner. C'est sûr qu'on n'obtiendra rien. Mais, autant que c'est pas toujours à cause des péchés, mais il faut pas gêner de le dire lorsque nous savons qu'une de nos souffrances est due à un péché. Dieu veut qu'on s'examine soi-même et qu'on l'avoue. Si on le sait, faut le dire. Si on le dit pas, puis on le cache, on n'aura pas d'exaucement. Après, on se demande pourquoi que la personne n'est pas exaucée. C'est peut-être que de quoi qu'elle a sait que nous, on sait pas. Des fois, Dieu le révèle, ça. Il donne des paroles de connaissance, puis c'est ça qui est ce don-là, paroles de connaissance, c'est qu'il révèle le problème est dû à cause de quoi. Ça se voit pas à l'œil, mais il donne la révélation à celui qui a le don, pif, ils viennent d'avoir la réponse pourquoi qu'il n'est pas guéri. Mais ça l'arrive, ça aussi. Ça fait partie des dons spirituels. Fait que si on n'arrive pas à prier puis à avoir une prière exaucée, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, on ne sait pas toutes. Des fois, on a besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça peut être une affaire d'un péché plus loin, comme qu'on a parlé tantôt, dans nos familles, des affaires qui s'est passées, puis on ne sait pas, des malédictions, n'importe quoi, des liens occultes qui ont besoin d'être brisés, n'importe quoi. Tout est possible. On connaît pas les pourquoi de tout, mais on le demande au Seigneur, et le Seigneur peut le révéler. Amen. Croyons que ça fait partie de la parole de Dieu, mais le point qu'on veut emmener ce soir, prier pour notre propre santé. Ça fait partie de ce qu'on peut faire, puis on a le droit de le faire, puis on est même invité à le faire, à demander d'être guéri. On se base sur la prophétie d'Isaïe qui disait que Jésus il a accompli ce qu'il fallait pour qu'on puisse aussi être guéri, pas juste être pardonné. Dans 1 Corinthiens 11, 30 à 32, ça nous dit, « C'est pour cela que parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi que Paul il dit ça? Parce que Paul, il savait qu'il y a des gens qui, dans l'Église, sont malades ou sont même morts, puis c'est à cause des jugements du Seigneur pour la personne. C'est que Dieu règle ses comptes avec ses enfants. Tu sais, il dit dans un autre verset, Dieu châtie ceux qu'il aime, ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu fais partie de la famille de Dieu, tu n'as pas les mêmes châtiments qu'avec le monde. Puis là, Dieu, des fois, pour ses ravisses dans ta vie, est obligé de te mettre de la pression. Comme une souffrance, une maladie, un problème, comme Ananias et Saphira, ils sont tombés morts à cause de leur péché. On voit ça au début des Actes. C'est le Seigneur qui les a frappés. C'est un jugement du Seigneur. Pour pas que les gens soient jugés avec le reste du monde, Dieu il a donné un châtiment pour les punir tout de suite. Il fait ça avec son Église. Il punit tout de suite. Il donne des châtiments. Fait qu'il y a des maladies, mais quand il punit, il te le dit. Tu le sais. C'est pas une affaire que tu sais pas. Faut écouter le Seigneur, faut écouter sa voix. Il nous parle, le Seigneur. Il va nous le montrer que un tel problème qu'on a, c'est à cause de tel péché qu'on a fait. On le sait, on en a conscience. Puis là, si tu le confesses, comme qu'il disait tantôt, tu vas voir tes malades, va voir les anciens, confesse tes péchés, puis tu vas être guéri. C'est ça que ça dit. Le Seigneur veut régler cela avec nous autres tout de suite. Il met de la pression, il nous serre la vis, il nous rend malades dans quatre choses. Puis là, on le sait, on va voir les gens, on demande la prière, on confesse notre péché, puis on est délivré, on est pardonné, puis on est guéri. Voyez-vous, ça fait partie du plan de Dieu. On est obligé d'en parler, puis je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de ce sujet-là parce qu'ils ne croient pas que Jésus il est trop bon pour punir. Mais si on pense de même, c'est pas biblique. Jésus est trop bon pour nous laisser aller sans nous punir. C'est de même qu'il faut prendre ça. Jésus est trop bon pour nous laisser nous perdre. Fait qu'il est obligé de nous rendre malades des fois pour nous corriger. Voyez-vous? C'est parce qu'il nous aime. Il châtie celui qu'il aime. C'est un privilège d'être jugé par le Seigneur, sachant qu'on évite le jugement éternel. Et dit, si vous n'auriez pas de punition de la part de Dieu, c'est parce que peut-être vous êtes un fils illégitime. Peut-être vous n'êtes même pas un enfant de Dieu. C'est ça qu'il dit dans le texte. En voulant dire que si ça arrive que le Seigneur il vous châtie, bien c'est une preuve que tu lui appartiens. Parce que moi, j'en ai eu des enfants. Puis quand il y en a un qui faisait de quoi puis se fait punir, je le punissais. Pourquoi je le punissais? C'est parce que je l'aime trop pour le laisser faire, pour qu'il pogne ce mauvais pli-là, puis qu'il fasse ça à tout le monde. Je suis obligé de le corriger, l'enfant. Puis c'est normal que je veuille le corriger, je suis son père. Les enfants des voisins, je m'en mêle pas, c'est pas mes enfants. Mais mes enfants, je m'en occupe, puis je les mets en punition quand c'est le temps, pour leur apprendre. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu s'occupe de ses enfants, puis ceux du monde, il va les juger à la fin. Voyez-vous? Mais c'est pas tout le temps à cause d'un péché qu'on est malade. Faut éviter de tomber sur l'autre extrême, puis à chaque fois qu'on voit quelqu'un de malade, il a sûrement fait un péché, puis là, on est là, qu'on le regarde, puis on le juge, puis comme les amis de Job qui essayaient de dire à Job que c'était à cause d'un péché. Mais c'était pas à cause d'un péché, c'est à cause d'une épreuve que le diable a réclamée. C'est pas pareil, c'est pas un péché. Le diable avait réclamé Job pour le cribler comme qu'il avait criblé Pierre. Puis c'était des attaques. Des attaques, tu peux être malade à cause d'attaques de l'ennemi aussi. Mais c'est un privilège d'être jugé par le Seigneur parce que c'est une preuve que Dieu nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. Partons avec l'idée que Dieu veut nous guérir. Puis comme qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis là, il dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Amen.